étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 55e émission de Roman de Gare, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur Attignati et Robert Ferrari, dont le dernier roman « L'escalade des maudits » est paru le 8 août 2025 aux éditions « Le diamant de la Vouivre » et dans la collection « Les couloirs du temps », sans oublier « Contes et légendes de Bresse », d'après les textes de Denis Bressan, paru dans le Courrier de l'Ain, un livre paru en février 2026 aux éditions « Le diamant de la Vouivre » et dans la collection « Les pays de l'Ain ». Robert, bonsoir. Ah, voilà, avec le micro c'est mieux. Voilà, et bien en face, et bien en face, bien droit le micro. Voilà, comme ça, on est parti pour des, on est parti pour 3 heures. Vous êtes prêts? Pas de souci. Allez, votre dernière venue à Radio B et à Roman de Gare date du jeudi 3 octobre 2024. Jeudi 3 octobre, ouais. Quelques jours avant la tenue du traditionnel Salon du Livre à Tignat. Donc, vous nous aviez présenté à l'époque vos deux derniers romans, Au nom du secret du temple et Quand les poulets se mettent à table. Les deux parus aux éditions Le Diamant de la Vouivre et dans la collection Les couloirs du temps. Travaux oblige, nous n'avons pas pu vous inviter avant l'édition 2025 du Salon à Tignat en livre. Alors, comment s'est passé ce dernier? Le public a-t-il répondu présent?
Le public a répondu présent, tout à fait. Peut-être un peu moins nombreux que l'année d'avant, mais pratiquement tout le monde est reparti avec au moins un livre sous le bras.
Ah ouais.
Et ça a plu aux auteurs, dont très peu se sont plaints de ne pas avoir vendu d'ouvrage, quoi. Et dont beaucoup ont repris contact pour cette année.
Bien sûr. Alors, vous nous avez avoué à plusieurs reprises vouloir passer la main côté organisation. Alors, qu'en sera-t-il pour l'édition 2026 qui aura lieu le dimanche 11 octobre?
Ben, la main appartient toujours au même bonhomme, c'est-à-dire moi.
Toujours, personne ne l'a pris, toujours.
Non,
toujours,
pas encore.
Personne, pas encore.
Alors, depuis tant que je tiens debout, ça va. Hein,
ouais, vous tenez debout, ça va.
Ouais.
Alors, depuis le 23 mars 2026, il n'est plus possible de s'inscrire au Salon à Tignat en livre.
C'est plein.
Année après année, le succès ne se débranche jamais, mais jamais.
Jamais, non. Jamais. Et cette année, on aura... j'ai pris des masques. On aura 30 nouveaux auteurs qui ne sont jamais venus.
Ah oui.
Dont 10 de l'Ain.
Ah oui.
Il y a des auteurs de l'Ain qu'on ne connaît pas et qui, petit à petit, ben, font le pas pour...
Donc c'est forcément leur premier roman ou premier livre?
Oui. Généralement, oui, ou un deuxième, ou voire un troisième, mais qui n'osait pas franchir le pas pour venir dans notre salon. Quoi.
Ouais, ouais. Bon, au salon, il faut s'inscrire. Hein.
Il faut s'inscrire.
Ouais, il y en a qui sont jamais venus parce qu'ils sont jamais inscrits. Voilà, aussi,
hein. Oui, ils sont jamais inscrits.
Ouais, ouais. Alors, sur la page Facebook du salon, il est précisé, cette année, de nombreux nouveaux auteurs, mais aussi des anciens, des piliers de notre Attignat en livre, avec des nouveautés. Alors, peut-on savoir plus sur les nouveautés, alors? C'est quoi les nouveautés?
Les nouveautés, c'est les auteurs qui sortent un nouveau roman. Ouais.
D'accord. C'est ça la nouveauté chez vous?
Disons, par manque de place, on ne peut pas faire d'animation comme à certains endroits. Quoi.
Ouais.
Ou alors, il faudrait réduire le nombre d'auteurs. Mm-hmm. Ce qui est pas...
ouais, c'était des conférences ou des...
Pas les conférences,
des rencontres, non.
Ouais. On avait essayé d'en faire le samedi soir, mais ça n'a jamais marché.
Ouais, ouais.
Donc, on a arrêté, quoi, plutôt. Que de...
ouais. Alors bien, depuis votre dernière venue, il s'est écoulé un peu plus d'un an et demi. C'est plus qu'il n'en faut pour vous, hein, côté écriture, puisque votre maison d'édition, Le Diamant de la Vouivre, a fait paraître non pas un, mais deux livres. Un polar et un premier recueil bressant de contes et légendes de Bresse, dont certains ont été adaptés par vous-même. Deux livres par an, c'est un rythme assez soutenu. L'envie d'écrire ne s'est jamais tarie avec le temps.
Jamais.
Ouais.
C'est une drogue.
Mais avec le... ça s'arrête.
C'est une drogue dure.
C'est une drogue, mais dure.
Donc, elle n'est pas dangereuse, mais elle est dure quand même.
Donc toujours, si vous n'écrivez pas vos deux livres par an, vous n'êtes pas bien.
Voilà, disons, les contes de Bresse, ça a été relativement facile. J'ai l'intégrale de ce qui était sorti dans le courrier de là. Mmh. Mais
il faut le faire quand même.
C'est les autres qui ont fait des recherches.
Ah oui, bah il faut le sortir quand même.
Vous
l'avez retravaillé. Vous êtes
oui,
travaillé recueil.
J'ai retravaillé. Donc, mais disons, la matière était déjà là, donc c'est moins difficile.
D'accord. Alors, avec ce qui est annoncé au début de Contes et légendes de Bresse, à savoir deux livres en 2026, vous en avez encore sous le coude?
Des contes de Denis Bressant, il y en a encore sous le coude, oui.
Ouais,
mais écrivait pratiquement un à deux par semaine dans le courrier de l'Ain pendant presque 30 ans. Quoi.
Là, je parle de deux livres en général. Vous en avez encore sous le coude, des livres?
Des livres, j'en ai sous le coude. J'en ai plusieurs qui sont commencés, où je reviens de temps en temps.
Ouais.
J'en ai un prochain qui va parler de... Ce sera un polar pur et dur, qui va parler de la sorcellerie dans le département de l'Ain. Puisque pendant deux siècles, entre 1450 et 1650, on a quand même fait fort dans le département. Il y avait une bande d'inquisiteurs, tous plus cinglés les uns que les autres, qui ont fait des dégâts.
Mais il y a eu un peu partout, ça, non ?
Mais plus... Non,
ah, oui.
Certaines régions...
Ah, ouais.
Disons, l'Ain appartenait à la Savoie à l'époque, et le comte de Savoie de l'époque... Alors, c'était Amédée VIII, si je ne me trompe pas de numéro, qui est devenu pape après, avait sorti les statuts de Savoie, quelques années avant, où il y avait une page complète sur l'éradication des sorciers, des sorcières, des devins, enfin, ainsi de suite. Quoi. C'était presque une haine de ces gens-là. Quoi.
Ouais.
Alors, Mais ça, c'est... J'espère qu'il sortira pour le Salon d'Attigna.
Ouais, c'est marqué septembre, sorti en septembre, c'est marqué sur le
livre. Oui,
sur le livre.
Oui, je vais essayer, mais.
D'accord.
Mais alors, il va être costaud. Hein.
D'accord, on en reparlera à ce moment-là. Alors, vous êtes votre propre éditeur, hein, puisque les éditions Le Diamant de la Vouivre, c'est vous.
C'est moi, oui.
Hein, vous avez la main sur vos livres.
J'ai la main sur mes livres.
On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
Exactement.
Ouais. Alors, vous avez eu des expériences malheureuses avec vos anciennes maisons d'édition. Alors, que conseilleriez-vous à une auteure ou un auteur qui débute dans l'écriture ?
De la patience, peut-être un peu de chance, mais s'il veut envoyer, si elle ou il veut envoyer son manuscrit corrigé au maximum, s'il reste quelques coquilles, c'est pas un drame, qu'il l'envoie à des maisons d'édition à compte d'éditeurs. Parce que vous avez une floraison de boutiques qui font ça à compte d'auteurs et qui demandent entre 500, 700, 800, 1500, 2000 euros à l'auteur pour lui sortir 200 exemplaires. Quoi. Et puis après, l'auteur, débrouille-toi. Ils ont beau dire qu'ils font de la pub, il n'y a rien. Quoi. Bon, je ne citerai pas de nom, mais bon, il y en a.
Ouais.
Il suffit d'aller chercher, quand on est à une maison d'édition, d'aller poser la question sur Facebook, sur une page littéraire, et il y aura la réponse.
Ouais. Alors, le rôle d'une maison d'édition, produire et diffuser des livres, est bien distinct de celui d'auteur, écrire des livres. Elle a aussi un regard, les maisons d'édition, elle a aussi un regard extérieur sur le travail de l'auteur, alors relire, corriger et faire distribuer vos livres, choisir le titre, la pochette, trouver des salons et des séances dédicaces, c'est important. Vous faites appel à une personne extérieure, au moins pour corriger les fautes et donner son avis avant parution.
Pas toujours. Le prochain, oui. Parce que bon, il va être important, il va avoir un nombre de pages conséquent, donc il faut qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Quoi. Bon, une coquille par-ci, par-là... c'est pas dramatique. Je suis en train de lire un roman de Dos Santos. C'est un auteur portugais.
J.R. Dos Santos.
Ouais. J'ai trouvé des erreurs dedans. Mais bon, ça n'empêche pas la lecture.
Bon, c'est une traduction, là, en plus.
Oui, c'est la traduction.
Ouais.
Mais il est bien traduit. Hein. Je ne connais pas le portugais, mais il est bien traduit. Au niveau de la lecture, c'est fluide.
Donc, ça veut dire que les derniers livres que vous avez fait paraître, vous ne les avez pas fait corriger par... Enfin, c'est vous
non,
qui avez corrigé.
C'est vous. Bon, je ne les ai pas fait corriger spécialement, non, mais il y a quelques erreurs. Là, je le reconnais, il y a quelques,
sur le dernier,
quelques bourdes. Bon. Mais il n'y a pas d'erreur de personnage, comme dans certains. Quoi.
Bien, allez, on va commencer avec L'escalade des maudits, paru le 8 août 2025 aux éditions Le Diamant de la Vouivre et dans la collection Les Couloirs du Temps. Alors, pouvez-vous, sans trop en dire, bien sûr, nous en raconter l'histoire, que ce soit avec un petit ou un grand H d'ailleurs ?
C'était avec un grand H. L'escalade de Genève, qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 décembre 1602, a bel et bien existé. Donc, il faut remettre ça dans son contexte. En 1601, une partie de la Savoie, c'est-à-dire le Bugey, le Revermont, la Bresse, deviennent...
Le Pays d'Aix,
et le Bugey deviennent français par le traité de Lyon en 1601 entre Henri IV et le duc de Savoie, suite à une série d'escarmouches sanglantes, si je puis dire. Et en contrepartie, il obtient le marquisat de Saluces, de façon à pouvoir passer de sa Savoie du Sud à sa Savoie du Nord-Est, avec plus de facilité que s'il n'y avait pas eu ça. Mais enfin, il a quand même fini par se rendre compte qu'il s'était bel et bien fait avoir par Henri IV. Il l'a berné sur toute la longueur. Et donc, il décide de prendre Genève par surprise, sans déclaration de guerre, parce que Genève était soutenue par Henri IV. Genève, c'était un bastion protestant à l'époque, où les gens, les protestants, disons, harcelés dans d'autres parties d'Europe, venaient se réfugier.
C'était un peu une zone franche, Genève, à l'époque ?
Il y avait toute une zone du Genevois, oui, qui était... C'était pas une zone franche, c'était une république.
D'accord.
C'était déjà une république. Et donc, il décide de faire ça, et pour, il convoque l'Ost, c'est-à-dire l'armée, mais il écrit à... Enfin, il fait savoir ça à tous les gens de Savoie de l'époque, et puis à ses anciens vassaux, dont un va-t-en-guerre qui était comte d'Attigna. Là, je ne l'invente pas aussi, c'est vrai. Pierre de Rovoré.
Attignac, alors. C'était Attignac,
à l'époque ? C'est celui à l'époque, ça s'appelait Attignac, oui. Mm-hmm. Pierre de Rovoré d'Attignac. Et ils y vont, et le duc de Savoie envoie un premier commando pour ouvrir les portes, deux portes de Genève, la porte de la Monnaie et la porte Neuve, qui étaient moins bien gardées que les autres, parce que dans un coin pratiquement inaccessible. Donc ils utilisent pour ça des échelles emboîtables, inventées par ce cher Léonard de Vinci, ils grimpent sur la muraille et redescendent de l'autre côté pour ouvrir les portes. Mais il y a tout un engrenage d'événements qui font que une partie, il y en a 64 qui se font oxyre sur place, et il y en a 13 qui se font prendre, qui se retrouvent prisonniers, dont le comte d'Attignac. Ils sont pris sur le coup de 3h ou 4h du matin, le dimanche matin, jugés dans la matinée. Il y en a quelques-uns même qui ont été torturés entre-temps pour les faire causer. Ils sont pendus au rempart de Genève en début d'après-midi. Donc c'était ce qu'on appelle une comparution immédiate. Il n'y a pas photo. Et une fois qu'ils sont restés pendus un certain temps, ils ont pendu aussi ceux qui étaient déjà morts, les 64 en question. Ils relèvent tout le monde. Le bourreau de Genève, dénommé Tabazan, leur coupe la tête à tous, met les têtes une tête, une pique, et expose les piques sur les remparts de Genève pendant 6 mois. Le reste des corps n'est pas rendu au duc de Savoie, ils sont tous balancés dans le Rhône pour nourrir les poissons. Voilà, bon, ça c'est un résumé, mais bon,
c'est l'histoire qu'un grand H.
Ça c'est l'histoire qu'un grand H. Voilà. Alors l'histoire avec le petit H débute de nos jours, à Attignac même. à côté de chez le maire d'ailleurs, où un couple se retrouve assassiné par des épées médiévales. Alors pourquoi, comment, tout ce qu'on sait, c'est ce qui s'appelle Ravier. Couple Ravier, et ça va continuer comme ça. Tous les gens qui s'appellent Ravier ont commencé à avoir des ennuis, y compris à Genève. Il y a un Ravier qui est installé à Genève. Et aux enquêteurs de savoir pourquoi, et puis de terminer, et puis de trouver celui qui assassine, quoi.
Voilà.
Trouver le meurtrier.
Alors, pourquoi le comte d'Attignac décide de s'embarquer auprès du duc de Savoie alors que désormais la Bresse fait partie depuis 1601 du royaume de France?
Parce que d'Attignac a été longtemps au service du duc de Savoie dans sa garde rapprochée. Il a gardé, disons, une fidélité à l'égard de son ancien patron, quoi.
D'accord. Alors dans cette bataille de l'escalade remportée par les Genevois, les hommes comme les femmes, les militaires comme les habitants, le comte d'Attignac n'avait pas choisi le bon camp. Hein, c'est moins qu'on puisse
mais
dire.
Mais ça aurait pu marcher. Hein. Si un individu n'avait pas coupé fait tomber la herse, voilà. C'était bon.
Et ça, c'est historique. Hein,
c'est historique, oui.
Même Wiki en parle, donc on peut le dire. Hein. Ouais, les prisonniers n'eurent pas droit à un procès équitable. On ne s'embarrassait pas trop avec les droits de la guerre à l'époque. Ils furent tous pendus, hein, vous le disiez, le lendemain, leur tête tranchée et affichée sur les murailles au bout d'un pic, et leur corps jeté dans le Rhône. On ne faisait pas dans les sentiments à l'époque, même chez les protestants.
Oui. Ouais. Bah, disons, ils en avaient tellement bavé qu'il faut les comprendre.
Ouais, mais les lois de la guerre, là, ils se sont assis dessus aussi. La justice a été rendue.
Non, mais ils savaient une chose, c'est que si la Savoie s'emparait de Genève, les ordres du duc de Savoie étaient clairs. Hein. On rentre dans la ville et l'armée de mercenaires, parce que c'était tous des mercenaires en gros espagnols. Ma foi, ils avaient carte blanche pour faire tout ce qu'ils avaient envie de faire dans Genève. C'est-à-dire massacrer pratiquement l'intégralité de la population, de façon à ce que Genève, à la sortie, se retrouve dans le camp catholique.
Alors, les exécutions à Genève suite à la bataille de l'escalade est un avant-goût de ce qui arrive dans l'escalade des maudits, hein, 422 ans plus tard, à Attignac et à Bourg-en-Bresse, pardon. Une véritable boucherie avec un objet historique, une épée de la fin du Moyen-Âge. Il faut bien au moins ces deux corps du ministère de l'Intérieur, hein, celle de la police et de la gendarmerie, pour enquêter, puisque des meurtres ou des agressions ont lieu à Attignac, Bourg-en-Bresse, Coligny et même Genève. Agression, je ne parle pas forcément de meurtre, avec la police cantonale. Les enquêteurs ont bien du mal à comprendre pourquoi un tel massacre. L'histoire de France et de leur région n'est pas leur fort. Il faut dire que vous avez passé la barre très haut quand même au niveau.
Oui.
Là, c'est.
Oui, mais bon, des gens qui s'appellent. Qui sont assassinés parce qu'ils portent un certain nom, il leur a fallu un certain temps pour faire le joint, quoi.
Oui, c'est pas. Là, c'est. Vous avez l'impression d'avoir placé la barre plus haut que d'habitude au niveau...
Oui, ouais. Ben, il faut. De toute façon, à partir du moment où un bouquin ça marche à peu près, le suivant, il faut qu'il soit au moins au même niveau, sinon plus.
Ouais. Et celui d'après, alors
Celui qui arrive, là, oui. Là,
ah oui.
Oui.
D'accord.
Je vous le promets.
D'accord. Alors, les échanges et la complicité entre la police, la gendarmerie et la police cantonale de Genève sont au beau fixe.
Mmh.
Hein, on sent que désormais, la guéguerre entre les différents corps de sécurité est loin. Seules les zones de compétences les différencient maintenant, hein, c'est ça, à peu près. Pour résoudre une telle enquête, il fallait des équipes soudées.
Oui.
Ouais.
Les équipes que j'ai mis en place depuis le premier...
Ils se connaissent tous, maintenant c'est bon.
Ils se connaissent, oui.
Ouais.
Del Pieri, l'adjudant de Montrevel, donc de gendarmerie, et le commissaire Valenbois, le Lyonnais, se sont rencontrés dans les poulets se mettent à table. Et ça a commencé par une bonne giclée de la part du gendarme contre le policier, quand celui-ci a voulu expliquer au Bressan comment il fallait répondre aux questions. Quoi.
Ouais. Là, le Valenbois, il n'est pas là. Hein. C'est le commissaire Bardet qui est là, c'est pas le commissaire Valenbois, là.
Ah non, d'une pipe, oui.
Oui, vous me parlez de Valenbois, mais vous avez raison. Ça. Vous êtes revenu sur le bouquin d'avant, mais c'est pas grave. Mais,
sauf que, non, pour
une fois, il n'est pas question de Lyonnais. On reste entre nous.
Oui, c'est Bardet, oui, exact.
C'est Bardet, vous dites, mais c'est pas grave.
De Bourg, voilà. Qui lui connaît Del Pierri, voilà. Parce qu'il a enquêté sur lui et son père dans L'inconnu de la rue Mercière.
D'accord.
Où, le père d'Del Pierri était un suspect idéal.
Mmh. Oui.
Voilà.
Alors, on parle de la police de Bourg-en-Bresse et de la gendarmerie de Morvel en Bresse. Vous entretenez quelle relation avec eux, vous ?
La gendarmerie de Bourg-en-Bresse, son adjudant-chef est mon voisin, donc il y a une bonne entente.
vous avez forcément cherché à les contacter, à parler.
Je parle des brigades, des trois brigades, la triangulaire, Morvel-Jaya, Saint-Trivier
et Coligny.
Là, je suis allé lui poser des questions, de toute façon, pas d'adonnerie, quoi.
D'accord, ouais, voilà. Donc, la gendarmerie de Morvel-en-Bresse est située depuis 2022 à Jaya, et plus à Morvel-en-Bresse. Alors, ça ne vous a pas facilité la tâche. Alors, Morvel ou Jaya, alors ?
Oh, c'est pareil, hein.
Ouais.
C'est à la limite.
T'as pas d'importance.
Ouais, c'est pas grave.
Ouais. Les policiers et les gendarmes, donc, du coin, lisent vos romans ?
J'en sais rien.
Vous ne savez pas ?
Je ne sais pas.
Il pourrait. Vous n'avez jamais eu d'écho.
Mon voisin a eu droit à un exemplaire, hein, puisque bon, je l'ai enquiquiné par des renseignements.
Ouais.
Donc je pense qu'il l'a lu. J'ai pas de nouvelles.
Alors justement, côté enquête, alors.
Je vais commettre là une nouvelle longue, si je puis dire, pour la prochaine fête de quartier, sur une histoire d'arrosoir qui a été volée chez un des voisins qui vient à la fête de quartier. Alors je change les noms, je change les lieux, je change tout ce monde. Là. Voilà. Mais ils seront dedans.
Donc, vous avez besoin d'avoir des infos du côté des gendarmeries ou de la police ?
Disons...
Toujours ?
On trouve ce qu'on veut sur Internet, hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, quand on connaît quelqu'un, c'est toujours bien de savoir si ce qui se dit est vrai ou pas. Quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais côté justice, pareil, vous allez voir le juge ?
Justice, non.
Non.
Donc je sais comment ça fonctionne à peu près. Donc,
à peu près.
Oui, c'est le procureur qui ouvre l'enquête. Et c'est le procureur ou la procureure qui délègue, qui nomme un juge pour suivre l'enquête en question. Ça m'a coûté assez cher au concours du Quai des Orfèvres. Où une phrase dans le bouquin m'a disqualifié.
Ah.
Le juge disait, oui, quand j'ai pris l'enquête.
Ah.
Il fallait dire quand la procureure m'a confié l'enquête.
D'accord. Dans vos derniers livres, tous ces gens-là sont très disponibles.
Oui.
Ça reflète la réalité ?
En campagne, il n'y a pas non plus des horreurs tous les jours. Hein.
Parce que les appels, les ont tout de suite. C'est très, très, très fluide, finalement.
Il faut.
Ouais.
Non, c'est un kiki de moins le lecteur.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, juste, il y a une profession qui apparaît dans vos romans. Enfin, je ne me rappelle pas si je l'avais trouvé avant. C'est peut-être possible, mais je ne me rappelle plus. C'est celle de profileur avec le brigadier Marc Bernigo et puis le lieutenant Jean-François Romarin, un poète jaloux, dans chaque corps. Ce sont deux profileurs un peu particuliers, je trouve. Et ils sentent, je dirais même, ils ressentent les choses en touchant les objets relatifs à l'enquête.
Oui, ils sont un peu... Oui,
c'est ça, un profileur ?
Le profileur, oui, c'est ça.
Parce que c'est plus dans la psychologie qu'il travaille, non ?
Dans la psychologie, mais il y a aussi une sensation quand ils sont sur les lieux des enquêtes.
Et ça,
les scènes de crime, choses comme ça. Quoi.
Et ça, pour travailler ça, vous avez fait des recherches ?
Sur les profileurs. Alors, on trouve beaucoup de choses au Canada, un peu moins chez nous.
C'est plus récent, c'est pour ça, non ? Même
pas, non ? En haut lieu, c'est plus réticent.
Ouais.
Non, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ressentent des choses.
Et pour une telle enquête, il fallait un profileur, vous ?
Bah, ça aide un peu, oui.
Oui, parce que c'est... Oui, c'est pour dire la complexité de l'enquête. Hein.
Ouais.
Donc, pour écrire l'escalade des maudits, vous faites voyager à la fois vos personnages et à la fois l'histoire avec un grand H. Vous avez dû faire des recherches un peu plus poussées que d'habitude.
Sur l'escalade, je pensais que ça allait être compliqué, mais vous tapez escalade de Genève dans Google, vous avez une avalanche de sites. Puis il y a des sites suisses, voire Genevois, qui sont très bien faits et qui expliquent comment ça se déroule chaque année. Quoi.
Ah ouais.
Bon, j'ai pas fait. Je voulais intégrer le ce qui se passe chaque année à Genève, parce que chaque année, l'escalade est fêtée.
Ouais.
Mais ça aurait un peu alourdi, donc, parce que bon, ça dure une semaine, hein, pratiquement. Donc, il y a un grand défilé. C'est bon.
Oui, qui est connu en plus. Hein.
Qui est connu, oui. Ouais, ah, faut pas se pointer là-bas en disant qu'on habite à Tignes. Mais bon.
Ah ouais. C'est vrai?
Non. Je pense pas, j'espère pas.
Alors, votre roman débute à Attignat,
oui.
Une commune que vous connaissez bien, hein, puisque vous y habitez. Le maire Walter Marin a accepté d'être présent.
Non, alors là, il y a une coquille, là. C'est Walter Martin.
Ah, c'est moins une coquille de ma part, là. Moi, je pense. Pourquoi j'ai dit Marin?
Non, c'est une coquille dans le bouquin.
Ah ouais, d'accord.
Dans les remerciements.
Bon,
mais ailleurs dans le bouquin, c'est bien Martin.
Bon, ben, alors, je recommence. Hein. Le maire, Walter Martin, a accepté d'être présent dans ce roman sous son propre rôle d'élu. D'habitude, ben, selon la formule consacrée, hein, toute ressemblance, bon, je vous cite, avec des personnages, des patronymes actuels et ou passés identiques à ceux décrits ou intervenant dans cette histoire ne sont bien sûr que fortuites, et indépendantes de la volonté de l'auteur. Alors, pourquoi le maire Attignat a accepté d'apparaître sous sa véritable identité et avec le titre de chef de la commune, quand même?
Oui.
C'est un jeu entre vous, là?
Non, je vais demander.
C'est aussi simple que ça?
Oui. Bon, on se connaît bien, donc il n'y a pas de souci.
Ouais.
Puis bon, il m'a dit, OK, à condition que je ne sois pas l'assassin. Donc voilà. Il n'est pas l'assassin, donc c'est bon.
Et pourquoi vous vouliez...
Comme ça?
Comme ça.
Pour personnaliser un peu.
Oui. Ça vous arrive souvent de demander...
Pas vraiment, non. Bah non, quand je ne connais pas les personnages, je ne vais pas...
Mais vous connaissez du monde, vous, donc vous auriez pu mettre...
Oui, quand même, oui.
Ouais, ouais. Donc, alors, vous lui rendez hommage quelque part? Bah, il est comme cité dans votre bouquin, quoi.
Oui, oui, peut-être, j'en sais rien. Je n'ai pas réfléchi à ça. Hein.
Ouais, ouais. Alors comment il l'a pris, lui?
Ah bien.
Ouais, ouais.
Ouais,
ouais. Ouais, ça va. Vous le
dépilez. Bah, il l'a lu en avant-première, forcément. Puis voilà.
Il n'y a rien de choquant dans
le roman. Ah non, il n'y a rien de choquant
du tout.
Non.
Alors, une partie de ce roman donc, se déroule à Attignat, je disais. Donc, vous êtes l'un de ses habitants. C'est forcément plus facile pour décrire les décors, notamment ceux du premier double crime et le voisinage.
Oui.
Ouais. Certains voisins se sont reconnus, du moins, leur habitation.
J'en sais rien. Peut-être. Non, il y avait. C'était quand même assez flou. Ouais.
C'est inventé ou...
Non. Les rues existent, oui, les lieux existent.
Voilà. Les maisons existent aussi.
Oui.
Ouais.
Oui.
D'accord. Alors, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire venir les forces de l'ordre à l'école d'Attignat.
Oui.
Hein.
Normal.
L'une des victimes étant professeur des écoles.
Oui.
Hein. Vous en avez été longtemps directeur.
Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Même confirmé. Une enquête à Attignat ne peut pas se passer au salon et à l'école. Ouais, parce que ça se passe également au salon, ouais.
Oui. Oui.
C'était obligé, là.
Fallait mettre des trucs du coin, quoi.
C'était obligé pour vous.
Oui.
Non. Oui.
Tout à fait. Bah, j'ai fait 31 rentrées à Attignat.
Oui.
Donc.
Ouais. Donc tout à l'heure, on évoquait le salon d'Attignat en livre, justement. Dans l'escalade des maudits, les forces de l'ordre se rendent à l'espace Salvert le dimanche 13 octobre 2024. Oui, pour rencontrer monsieur le maire et les autrices et auteurs présents. Alors, vous étiez présent ce jour-là. En vrai et en faux. Donc, bien évidemment, cela vous arrive souvent de figurer dans un de vos romans et de croiser vos gendarmes et policiers?
Non.
Non, c'est la première fois qu'on vous croise dans un livre.
Mais je me mets pas en scène. Non, je me mets pas en scène.
On parle plus ou moins de vous quand même. Non, il y a des allusions quand même. Non,
des allusions, il y en a une dans un petit polar qui se déroule à la maison à Marigneux, à la maison Angelot, viticulteur. Il y a eu un premier roman où on trouvait la maître de chais noyée dans un chais, tout simplement. Et le deuxième derrière, il m'a demandé d'en faire un autre. Donc j'ai fait un autre, et c'est sa comptable qui était assassinée sur son ordinateur. Et là, je me suis, sans... c'est peut-être pas flagrant, mais je me suis mis en scène en ridiculisant l'auteur qui avait écrit l'histoire du premier, qui apparaissait dans le deuxième, et qui montait un trafic avec la comptable pour piquer du vin. Mais bon, ça c'est...
Ben bon. Alors, l'enquête de votre roman se déroule à la période où se déroule le Salon du Livre d'Attignat.
Ouais. Hein,
C'est un hasard ou vous aviez envie de faire un peu de pub?
Bon, les deux.
Les deux.
Les deux.
Ouais. Ah ouais. Ça, c'est aussi.
Non, c'est pas un hasard.
Ah, c'est pas un hasard.
Non.
Oui.
Fait exprès.
Ouais. Alors, contrairement à l'adjudant Diel Pierry, le commissaire Bardet ne connaît pas l'existence du Salon du Livre d'Attignat.
Ouais.
Comment ça se fait?
Ben Bardet, il est prêt à Bourg depuis longtemps, puisqu'il était au Quai des Orfèvres. Et il a payé les pots cassés. Il a été le fusible qui a sauté.
Mais il est arrivé quand? Quelle année, le commissaire
Bardet?
Il est
arrivé une dizaine d'années avant.
Et il ne connaît pas le Salon d'Attignat?
Ben non, vous avez un paquet de gens qui ne connaissent pas le Salon d'Attignat.
Voilà. Alors que l'adjudant Diel Pierry, oui.
Ben oui.
Ouais.
Ben
d'accord.
Oui.
Bon. Ça serait intéressant de demander au commissaire de Bourg-en-Bresse s'il connaît le Salon d'Attignat.
Enfin, j'y pense, ouais. C'est le jour où j'en compte.
Alors dans vos personnages, il y a le curé du village de Coligny, l'abbé Gondeval. C'est ça,
ouais.
Qui fait un peu n'importe quoi avec son bulletin paroissial, faut dire.
Ouais.
Où il se prend pour un journaliste spécialiste des chiens écrasés, alors qu'il n'a pas la carte. Entre autres, un peu comme moi, c'est votre côté anticlérical qui ressort là?
Non, 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 là, j'ai pas.
Le curé,
ça avait été mon côté anticlérical, il aurait reçu le curé en question.
Ouais, il a pas reçu, mais bon, il
n'a
pas une belle image de lui, quand même.
Non,
hein.
mais il a le droit de déconner. Hein.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Non, non, c'est pas rien à voir.
Ah ouais. Ouais, c'est, enfin, pour un curé, je trouve qu'il est... Il s'est laissé aller, là.
Ah ouais. Ah bon.
Il y a des curés comme ça qui font des bulletins paroissiaux et qui vont au niveau engagement, enfin au niveau... Ah ouais.
Je sais pas, peut-être.
Parce que là, il dépasse un peu les bandes, quand même.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Mais bon, vous avez une façon de remettre les gens en place, il n'y a pas de souci. Hein. Hein, de toute façon, le commissaire ou l'adjudant, là, voilà, c'est
ça. Oui,
oui, oui. Bon, pas s'embêter. Alors, depuis quelques années, vos romans mêlent fiction et l'histoire avec un grand H. Mmh. On les retrouve d'ailleurs dans la collection Les couloirs du temps, c'est pas pour rien. Écrire un roman qui n'est pas lié à l'histoire ou qui ne remonterait pas l'histoire. Ça a déjà été le cas. Est-ce que c'est une éventualité?
Ça a été le cas, oui.
Ça a été le cas.
Mais maintenant, j'ai pris le virus, là. Et...
Ah ouais.
Ouais. J'aime bien.
Donc,
ça change un peu, quoi.
Oui, sauf que là, c'est forcément...
Ça change un peu du roman où vous avez un, deux ou trois ou quatre flics neurasthéniques qui ont des gros problèmes de vie familiale, machin, qui sont jamais contents. Enfin bref, dans les séries qu'on voit à la télé, quoi.
Ouais. Ouais. Vous, ils vont bien, vos gendarmes et vos policiers.
Moi, mes héros vont bien, pour le moment. On verra après, on verra s'il faut en esquinter un ou deux, on verra.
Alors, avec quelle période de l'histoire êtes-vous le plus à l'aise pour écrire un polar? Il y a des périodes plus que d'autres? Non.
Non, je ne sais pas, non. Non, non. Non, j'en ai un en cours, là, je vous disais tout à l'heure, sur les histoires de sorcellerie dans le département.
Ah, mais ça, ça remonte pas... Voilà. C'est de l'histoire très ancienne, quoi.
Oui,
ouais.
Mais j'en ai un autre de commencer, qui se passe à Alésia.
Oui, depuis le temps que vous en parlez.
Oui, il avance
aussi,
petit
ça.
À petit.
C'est vieux, ça aussi, non?
Ouais, oui, 52 avant Jésus-Christ.
Voilà, c'est encore plus vieux. Voilà, voilà.
Mais bon, non, c'est pas...
Vous n'avez pas de période plus...
Non.
Que vous préférez aborder...
Quand je trouve un truc qui fait tilt, ça...
Alors, comment vous faites pour trouver un truc? Alors, comment vous faites, alors? C'est le hasard,
Le hasard. Souvent le hasard, oui.
Ouais.
Ouais.
Par exemple, pour l'histoire du livre dont on parle ce soir...
Oui, ben là, c'est... j'ai trouvé que l'histoire de l'escalade était pas mal. Mmh. Que le duc de Savoie s'était fait avoir par Henri IV... Donc, pourquoi pas monter un truc là-dessus, quoi. Ouais.
Tout est parti de là.
Oui.
Ah ouais. Avec vos romans, vous aimez remonter le temps.
Mmh.
Vous n'aimeriez pas le remonter avec les mêmes personnages, comme, je sais pas, je pensais à Retour dans le futur ou Les Visiteurs, par exemple.
Non. Non, Les Visiteurs, c'est pas ma tasse de thé.
Mais non, mais j'imagine. Mais, okay. Dans l'esprit mmh. où vous prenez des personnages qui remontent le temps, avec ou sans machine d'ailleurs.
Non.
Enfin, je sais pas, non.
Non.
Ça vous a jamais.
Non, ça fait plus science-fiction, ça.
Mmh, mmh. Ouais, ça fait
bon. J'ai rien contre, hein, j'adore la science-fiction, mais bon, c'est pas évident d'en écrire.
Ouais. On parlait de la collection Les Couloirs du Temps, on retrouve en février 2006, toujours aux éditions Le Diamant de la Vouivre, mais dans la collection Les Pays d'Ain, votre dernier livre intitulé Contes et légendes de Bresse, en partie d'après des textes adaptés de ceux de Denis Bressant, paru dans le Courrier de l'Ain entre 1887 et 1930. Alors, pouvez-vous nous présenter ce nouvel ouvrage ?
J'ai une série de contes écrits par Denis Bressant dans le Courrier de l'Ain entre 1880 et 1925-30, dans ces eaux-là, où il produisait, Denis Bressant, en réalité, s'appelait Bertillier. Et il écrivait des contes populaires issus de ce qu'il entendait dans les campagnes. Il les transformait en contes pour le journal Le Courrier de l'Ain, qui a disparu depuis un bout de temps. 44. Il en produisait à peu près un, voire deux par semaine. Plus des histoires du patrimoine. Où il expliquait les conscrits, le carnaval, enfin toutes les périodes de la vie dans une année, les moissons, enfin des choses comme ça, quoi. Et je trouvais que ça serait intéressant de les ressortir, ces contes, parce qu'ils sont plus connus de personne, quoi. Mais il y avait un écueil, c'est-à-dire que dans ces contes-là, ils s'adressaient à des gens qui étaient très au fait des faits historiques de la région et des traditions. Donc il y avait des phrases concernant les traditions, etc., que les gens d'aujourd'hui ne connaissent plus. Alors ça aurait obligé à mettre des notes en bas de page qui auraient pris trop de place. Donc j'ai préféré, pour certains, soit les réécrire entièrement, sans changer l'esprit, soit réécrire que quelques parties pour que ça donne quelque chose de plus fluide pour aujourd'hui. Il y avait des termes aussi, je ne les ai pas en tête, mais des termes littéraires qui ne se font plus aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc j'en ai comme ça un certain nombre. Il y en a d'autres, quelques-uns par contre, j'ai laissé pratiquement tel quel, parce que c'était facilement lisible par les lecteurs d'aujourd'hui. Sinon, dans le bouquin, il y en a quelques-uns qui sont totalement... Ils ne sont pas de Denis Bressant. Je les ai mis en italique dans la table des matières, comme ça, il n'y a pas de souci. Il y en avait un ou deux qui ont été écrits par moi directement, l'histoire du renard à la ferme, ça c'est pas un conte, c'est un conte Bressant, oui, mais bon, qui a rien à voir avec le passé. Et donc ça fait un certain nombre d'histoires à raconter, voilà. Et je dois dire que ce tome-là marche. Il y en aura d'autres, un, voire deux. Voilà. Parce qu'il a aussi écrit sur les gens de Grappamont. Alors Grappamont, on ne sait pas trop où c'est. Il fait les portraits du maire, de l'instituteur, du curé, du garde champêtre, du facteur, du meunier, ainsi de suite, en insistant sur leurs défauts.
Ah ouais.
C'est assez drôle.
Alors, Denis Bressant, alias Benoît Berthillier, fils de modeste agriculteur, a eu un parcours particulier grâce à un instituteur qu'il a pris sous son aile et puis a envoyé jusqu'à l'école normale de Bourg-en-Bresse. Ouais. C'était l'école de la République, le séminaire où il travaillait à la ferme. Ouais. Bien lui en a pris. Enfin, pour lui, enfin, oui, on imagine. Hein, oui. Les lecteurs du Courrier de l'Ain peuvent dire merci à M. Vincent.
Oui, l'institut en question.
Ouais.
Donc, à l'époque, les enseignants dans les campagnes, puisqu'ils en bavaient avec leur hiérarchie, et moins que maintenant, avec leur hiérarchie, mais surtout avec les paysans du coin qui rechignaient à envoyer leurs enfants en classe, parce qu'il y avait du travail à la ferme, tout simplement. Et c'est pour ça que les vacances d'été étaient très longues. Elles commençaient pratiquement au 15 juin pour finir début octobre, parce qu'il y avait les moissons, il y avait les semailles, il y avait les labours, etc.
Quoi. Ouais. Donc les enfants allaient à l'école l'hiver, quoi.
Voilà.
Ouais, ouais. Ouais. Alors Denis Bressant racontait des histoires issues de légendes ou l'inverse. En tout cas, avec Contes et légendes de Bresse, vous avez effectué un véritable travail d'éditeur, dépoussiéré, modernisé.
Ouais, on peut dire ça.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Mais bon.
Oui, ça travaille d'éditeur, là.
Ouais.
Ouais. On retrouve également un certain nombre de contes provenant d'autres sources ou ont été inventés pour le livre.
Oui.
Ouais.
Ben vous avez la ferme de la Bouchardière, une ferme mythique dont les vieux parlaient dans les veillées. Personne ne sait où elle est, personne ne cherche à savoir où elle est d'ailleurs. C'est une ferme mythique où tout est plus beau qu'ailleurs, où tout est plus grand qu'ailleurs, où les raves, pour transporter une rave, il faut deux charrettes, enfin, ainsi de suite. Les trucs. Ouais. Ben celle-là, par contre, je suis parti de certains textes, et là, la Bouchardière est entièrement de moi.
D'accord.
Voilà.
Ces histoires étaient contées au cours des veillées.
Des grandes veillées, oui.
Ouais, au cours des mariages aussi.
Mariages aussi.
Et autres réjouissances.
Ouais.
Alors, c'était avant l'arrivée de l'électricité.
Oui.
Puis de la radio et de la télévision, ainsi que par l'exode rural qui ont profondément transformé les modes de vie et marqué la fin de cette forme traditionnelle de sociabilité rurale. On oublie qu'il y avait un monde avant la radio et la télé.
Bah oui.
Et même avant l'électricité.
Oui. Bah oui.
Ouais. On oublie souvent que dans les chaumières, à l'époque, le journal avait aussi une très grande importance, celui d'apporter l'information. Ouais, alors, quelle était la place du Courrier de l'Ain entre 1821 et 1944, date de la fin de sa parution ? C'est pas forcément...
Il était lu dans les chaumières, ça fait cliché, mais bon.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, c'est vrai, oui.
Ouais, ouais. Oui. Et puis il était lu aussi par tous les colporteurs qui se baladaient à droite à gauche pour vendre les dernières nouveautés qu'ils avaient rapportées de certaines foires. Il lisait aussi des articles du Courrier de l'Ain. Mais c'est vrai que c'était la voix de l'Inde d'aujourd'hui, quoi, en gros.
C'était la seule voix qu'ils entendaient.
Oui,
parce que...
oui. Par contre, au niveau pagination, il y avait 4 pages au début, 6 après, mais ça a rarement dépassé. Quoi.
Ouais. Ce qui est déjà pas mal.
D'une part, parce que tout était fait à la main, lettre par lettre.
Ouais.
Et puis il y avait un coût du papier à l'époque qui était plus cher qu'aujourd'hui. Quoi.
Ah oui. Alors on oublie. Donc Denis Bressant était... Non, enfin, Denis Berthillier était instituteur. Vous l'avez été aussi.
Hein. Je l'ai été aussi,
voilà,
oui.
Du moins jusqu'à ce qu'on vous appelle professeur des écoles. C'était le cas,
même après, je continuais à dire que j'étais maître d'école.
Ouais, alors que... Bon.
Ouais. Oui, ça n'a rien changé, hein, juste...
La retraite et la paye, non
Un peu la paye.
Un peu la paye, un peu la retraite.
La retraite, non, puisque c'était celle d'avant, enfin le contrat d'avant qui marchait.
Ouais. Ah d'accord. Donc il écrivait des histoires, vous aussi?
Oui. Moi, je ne publie pas dans les journaux.
C'est la seule différence. Alors, à travers lui, c'est un peu vous qu'on retrouve?
Non.
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 Vous n'écrivez pas de contes, vous? Vous ne racontez pas d'histoire.
J'en ai eu écrit des contes, mais c'était soit des contes horrifiques, soit de science-fiction. Il y a un certain temps. Ou un temps certain.
Donc, Contes et légendes de Bresse est le premier recueil bressant appartenant au folklore de la Bresse.
Mmh.
Vous les avez voulus plus accessibles, voire plus drôles et plus dramatiques. C'est pour attirer un public plus jeune, sachant que ces histoires sont d'un autre...
Moins de 12-13 ans, là, même 15 ans, c'est quand même difficile. Hein.
Ouais. Votre public, il a quel âge? Votre public a quel âge?
Pour les polars, tout, à peu près tous les âges. Hein. Ouais. Disons, quand je suis en dédicace, je refuse d'en vendre à des moins de 15-16 ans.
Carrément?
Ah bah non, et pas... Ou alors, j'ai une série de 5 polars pour enfants là, tirés de l'ancienne maison d'édition que je finis de passer, que je donne aussi. Mais les polars normaux des couloirs du temps, il faut avoir au moins 15-16 ans.
Bien.
Sauf évidemment si y a les parents avec et puis qu'ils achètent un pour le gamin. Quoi. Mais bon, ça... Mmh.
Il y a des adolescents qui viennent vous acheter des livres?
Oh, ça arrive. Hein.
Ouais.
Ils ne sont pas tous tablettes, téléphones portables. Et...
C'est forcément des adolescents qui ont été dans votre classe?
Alors, ceux qui ont été dans ma classe, ils sont largement adultes maintenant et parents.
Mais bon. Oh, c'est pas si vieux que ça.
Ce qui ne me rajeunit pas. Mais bon.
Bien. Allez, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace, oui. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Oui.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces dans la région proche. Robert, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
Les derniers coups de cœur, c'est ceux qui sortent actuellement. Ils sont pas sortis, il va y avoir le dernier Minier.
Vous avez lu quand même.
Que j'ai lu. Qu'est-ce que je lis? Je suis en train de lire Dos Santos.
J.R. Dos Santos, voilà.
Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un bouquin écrit par un Lyonnais sur la révolution, la période de la terreur à Lyon. C'est un roman qui est écrit d'une façon... que je qualifierais de bizarre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une négation, ne pas, le pas disparaît. Bon, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. C'est pas... Et il écrit un peu à la manière de l'époque. Pour certaines personnes, c'est peut-être dur à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, je sais qu'il en a, il a un suivant sur l'année 1794. Il sera à Tignat cette année, donc je lui prendrai.
Vous avez son nom?
Oui.
Oui. Vous avez retrouvé son nom.
Xavier.
Vous avez dans votre liste. On va trouver ça.
C'est qu'il y en a 85 qui est passé. Donc...
Il est connu.
Ah bah dans son milieu,
dans
oui,
domaine.
Je pense.
D'accord. C'est un Lyonnais.
Ouais. Ah bah mince, où il est passé.
Voilà. Bon. Le temps que vous cherchiez.
Enfin, c'est Xavier, quoi.
Le temps que vous cherchiez, je vais annoncer les propositions de la quinzaine de mon côté. Hein, donc le roman de Michel Moiti, Darwin, le dernier chapitre aux éditions. Hervé Chopin, il y a le polar...
Oui. Xavier Reynal.
Voilà, notez ça pour le mois d'octobre, même si c'est un petit peu tôt quand même.
Oui.
Hein, le polar de Jussi Alderer-Olsen, 7 mètres carrés aux éditions Alba Michel, le roman d'Éric et Luca, les règles du Mikado aux éditions Gallimard, le livre de Benjamin Barthes, Gilles Paris et Piotr Smolar, La guerre sans fin aux éditions de l'Aube, hein, si vous voyez ce que je veux dire, La guerre sans fin, hein, vous en voyez, vous voyez de quoi je veux parler. Le polar de Jean-Yves Le Naour, Mort à l'université aux éditions Kalman Lévy, le roman de Khosraoumani, Rattraper l'horizon aux éditions Actes Sud, le livre de nouvelles de divers auteurs, dont Stéphane Michel. Anthologie d'imaginaire, plus dur sera la chute aux éditions Black Rabbit. Le roman noir d'Anne Ardur, Ingrid Asson et les lendemains qui chantent aux éditions Point. Vous connaissez bien Ingrid Asson?
Ouais. Ah bah, c'est les auteurs du nord de l'Europe sont excellents.
Ouais. Le thriller de Charlotte McConaghy, Les fantômes de Sherwater aux éditions Actes Sud. Le roman de Cyril Mokayesh, qui à la base est chanteur, enfin à la base était même tennisman. Regardez Passer des trains aux éditions GM. Les Cozy Crimes de MC Beaton, Hamish Macbeth, Panique en cuisine et Hamish Macbeth, oui. Secrets et mensonges aux éditions Albin Michel. Le roman de Jean-Pierre Gabriel, La caverne de Julien aux éditions Les Impliqués. Le thriller de Charie Lapena, une Canadienne, une jeune fille sans histoire aux éditions Presse de la Cité. Le roman de Lorraine Fouchet, Du goût pour le bonheur aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le livre de Jean-Paul Jean, Les juges devant l'histoire aux éditions Presse universitaire de Rennes. Le roman de Benoît Philippon, L'étrange odyssée de la famille Monsieur aux éditions Albin Michel. Le livre de Pierre-Jérôme Biscara, Un village sous l'occupation aux éditions Passé composé, ça vous parle ?
Non.
Non. Le polar de Jean Deillon, Un monde perdu aux éditions Robert Laffont. Le livre de Didier Raoult, La société du factice aux éditions Fayard. Le roman de Christopher Bolen, Disparu du Caire aux éditions Calman Levy. Le roman de Rachel Joyce, La villa du parc aux éditions XO. Le trailer de Noémie Adenis, Le pavillon des fièvres aux éditions Robert Laffont. Le livre de Fabrice Laplace, Dans vos yeux, ça vous parle ?
Non plus.
Non plus, c'est un gars du coin. Le roman de Tatiana de Ronel et
Fabrice Laplace. Ouais, il sera à Tignan.
Voilà, c'est un roman sur un petit peu son histoire.
Ouais. Non, fallait que les rouages soient
mis en route. Oui, c'est pour ça. Le roman de Tatiana de Ronel, Les cœurs sont faits pour être brisés aux éditions Albin Michel. Le polar de Maria Grund, Prédateur de la nuit aux éditions Robert Laffont. Le livre de Nicolas Jules, Encore un chanteur, Grand abattoir aux éditions Gros texte. Le thriller de Jussi Alder Olsen, Mick Holm et Steen Bolter, Les morts ne chantent pas aux éditions Albin Michel. Le polar de Luc Charin, Ours. Luc Charin, il est du coin, c'est son deuxième roman.
Ah bon,
ça vous dit rien ?
Non, ça me dit
Luc
rien.
Luc Charin.
Je connais pas.
D'accord, Luc Charine, il s'appelle Jean-Luc Charin.
Oui.
Ça vous dit rien ?
Non, ça me dit rien.
Il ne me semble pas qu'il soit venu au salon. Le roman de Nathalie Gautreau, Et coule le sang du désert aux éditions Durouergue. Et le livre de Florian Besson, Pauline Ducret, Guillaume Glancereau et Mathilde Marère, Le Puy du Fou, enquête sur un parc qui déforme aux éditions Les Arènes. Il y aurait de quoi dire, je pense.
Voilà.
Vous êtes déjà allé ?
Oui.
Hein ? Il y a des choses à dire.
Il faut étudier un peu l'histoire avant d'y aller.
Ouais, et pas que l'histoire religieuse, ouais.
C'est ça.
Voilà, pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. D'abord, pour vous, Robert, avez-vous des rencontres et des séances de dédicaces dans les régions proches à annoncer, vous ? Pour vous ?
Pour moi, actuellement, il n'y en a pas. J'en ai pas avant le 6 juin.
D'accord.
6 juin, c'est Salon du Livre à Louhans.
D'accord.
Après, ça passe début septembre. Ouais. C'est un salon du livre, enfin, en plein air, à Louhans, à Beauze. Oula.
Comme cette année.
Ouais. Et après, c'est à Tignan, on reprend.
Le train-train habituel.
Par contre, probablement quelques dédicaces dans des bibliothèques.
Ouais. Eh ben, on va annoncer les séances dédicaces qui auront lieu jusqu'au 25 avril. Je vais commencer le samedi 11 avril à la boulangerie Nol à Montagna. Thierry Moiroux, que tout le monde connaît dans le coin,
hein,
de 11h à 16h, c'est la sortie de son premier roman Invisible. Vous saviez qu'il avait écrit un bouquin ?
Oui.
D'accord.
Je l'ai même entrepris pour qu'il vienne à Tignan. Il n'a pas l'air contre.
Ah, ouais, mais il ne s'est pas inscrit.
Ça date de pas vieux. Hein.
Ah oui, ouais, puis toujours, vous avez toujours la possibilité.
Ça date de la dernière semaine, donc.
D'accord. Eh ben, annoncez le prochain, tiens. Allez.
Le prochain, c'est Librairie des Citres à Confluence à Lyon. Yann Botrel, Agnès Collomb et Yann Faure, de 15 à 18 heures.
Voilà, Yann Botrel, il fait partie de la maison d'édition Les Gros Cailloux, ça vous parle ?
Les Gros Cailloux, oui.
Ouais. Bien, le samedi 8 avril 2026 à la FNAC à Bourg-en-Bresse, Christian Tisserand de 10h à 18h.
D'accord. Toujours chez Citres,
ben oui, c'est
à Lyon,
ça.
Mais à la Pardieu, ce coup-là, Jacques Maurice de 15 à 18h.
On ne le présente plus.
Très bon polardier.
Voilà.
Et en plus, un bon copain.
Voilà. Et puis, il amène toujours du bon vin.
Tout à fait. Et un autre collègue, tous les deux, lui amène du pâté croûte maison.
C'est Roland Garin, ça.
Voilà.
Ouais, c'est ça, ouais. Et le jeudi 23 avril, à la médiathèque Pierre Mendès France, à Villefranche-sur-Saône, c'est un bal littéraire avec Gisla Haine. C'est un romancier, mais c'est aussi un chanteur rappeur slammer. Voilà.
D'accord.
Voilà, voilà. Eh bien, Roman de Gare, figurez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est bien ?
C'est bien.
Bien. Robert Ferrari, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
C'est moi qui vous remercie.
Rappelons que votre dernier roman, L'escalade des maudits, est paru le 8 août 2025 aux éditions Le Diamant de la Vouivre et dans la collection Les Couloirs du Temps, sans oublier Contes et légendes de Bresse.
Contes et légendes de Bresse.
Il est sorti ?
Ah bah, il est sorti, oui, oui, oui.
Ah, il est sorti ?
Pour le moment, il est en stock à la maison.
D'accord.
Il faut que j'attaque la distribution. Il est, bon, on le trouve à la maison de la presse à Attignan pour le moment et à la maison D'accord. de la presse de Morvel.
Voilà. Et, le, ouais. et votre nouveau roman, L'escalade des maudits, on le retrouve où, celui-là ? Un peu partout.
Aux mêmes endroits.
Ouais.
Plus, il y en a forcément au moins chez mon barbeau. Ouais. Idem à la librairie du théâtre. Puis, ma foi, si le libraire l'a pas, il peut me le commander. Hein, c'est pas un drame.
Exactement, ouais. Sinon, ouais. Il est pété en réserve, quoi. Hein, il suffit de le sortir.
Hein. Oui, ou le sortir.
Comme beaucoup de livres, malheureusement. Hein. Voilà, voilà. On peut suivre votre actualité via les inévitables réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Hein, puis, bah oui.
Oui.
Ouais, c'est-à-dire, vous êtes sur Facebook.
Je suis sur Facebook.
Ouais. Ouais. Pas Instagram encore, pas encore.
Pas encore, non.
Pas encore. Ouais. Non. Bien.
Ouais. J'ai un compte.
Oui,
mais je ne m'en sers pas beaucoup, je veux dire.
Et rappelons que le prochain salon Attignan en livre, organisé par le Sous des écoles et vous-même,
ouais.
Ouais, toujours, aura lieu à l'espace Salvaire à Attignan le dimanche 11 octobre 2026.
Tout à fait. De 9h à 18h.
Donc les invités, la liste est close ou à peu près à
La
peu
liste
près,
est close.
Hein, qu'avez-vous bon, comme.
J'en ai ici.
Vous avez des guest stars ? Ils sont tous et tous des guest stars.
Pas vraiment.
Ils le sont tous.
On reprend la marche normale du salon, c'est-à-dire ouais. promouvoir les auteurs de la région, voire de plus loin, mais qui n'ont pas la chance de.
Bon, après, s'il y a un auteur qui est connu, qui veut s'inscrire, et vous le prenez aussi.
Sans souci.
Ah.
Sans souci. Par contre, on refuse les auteurs qui demandent à être payés pour venir.
Voilà.
Il y en a.
Ah, bah oui. Ouais.
Donc là, c'est non.
Ouais. Ouais. Tout à fait. Donc, le prochain invité de Roman de Gare le jeudi 23 avril 2026 sera Marie-Laure Sifferlin ou Sifferlin, elle ne m'a pas précisé encore. Elle présentera le premier salon du polar, du roman noir et du thriller Noir Brume, organisé par l'association Moirans Polar 39 et qui aura lieu à la Grenette, à Moirans en Montagne, dans le Jura, le samedi 16 mai 2026 de 10h à 18h. Vous saviez ?
Ah non.
Eh bien, c'est fait.
Voilà.
On y retrouvera 15 autrices et auteurs, dont certains que vous connaissez. Je pense à Jacques Maurice.
Ouais.
Estelle Tarot.
Non.
Non. Christophe Royer.
Ouais.
Bah oui, il est venu plusieurs fois chez vous. Renaud Brunet.
Non.
Non. Patrick Mallet.
Oui.
Isabelle.
Il sera aussi à Tignan.
Voilà. Isabelle de Saulve et Didier Fosset.
Didier Fosset, ça me dit quelque chose.
Voilà. Mais il y en a quelques autres aussi. Voilà. Il y a 15. Voilà. Robert, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur.
Merci.
Hein, bonne écriture.
Ça continue. On va essayer.
Ouais. Bonne séance de dédicace aussi. Hein.
On va essayer.
Aussi. Bon salon aussi. Bonne organisation. Bah, bonne organisation du prochain salon à Attignan en livre. Et puis surtout, à bientôt sur Radio B.
D'accord, pas de problème.
Allez, bonne soirée.
Vous aussi.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvait être...